Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pidis, Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, aujourd'hui on commence le dernier traité de la Seconda Secundae, la deuxième partie de la deuxième partie. Donc, c'est un traité extrêmement important. C'est une partie du traité sur la justice, en fait. C'est une sous-section de la vertu de justice. On l'appelle le traité des religionnés, de la religion. Bon, il y a plusieurs façons de diviser un peu tout ça, mais on peut dire que ça correspond aux questions 81 jusqu'à la fin de la Seconda Secundae, c'est-à-dire 81 jusqu'à la question 122. Donc il y a beaucoup de questions. Parfois on divise ce traité en deux, mais je trouve que c'est plus pratique de tout mettre dans un seul grand traité. Donc la vertu de religion, donc on est toujours dans la vertu de justice. J'ai expliqué que la justice est une vertu cardinale, donc qui nous oblige à rendre à chacun ce qui est dû, à commencer par Dieu, donc rendre à Dieu ce qui lui est dû. Eh bien, la vertu de justice, c'est rendre en général ce qui est dû à n'importe qui, et de façon plus particulière et plus première, rendre à Dieu ce qui lui est dû, ce qui est dû à Dieu. La vertu de religion, c'est donc la vertu par laquelle on rend à Dieu ce qui lui est dû. Alors, dans cette vertu de religion, encore toute une série de divisions, entre autres, une des parties de la vertu de religion, ça va être la vertu de piété. La vertu de piété par laquelle, justement, à cause du fait qu'on doit tout à notre Seigneur Jésus-Christ, on lui rend ce qui lui est dû d'une façon toute spéciale par la piété. Alors, vous avez pas mal de choses, un peu plus de choses sur le polycopier, donc à la page 100. Entre autres, là, j'ai mis surtout la question 81, article 1. La religion concerne-t-elle seulement nos rapports avec Dieu ? Je vous l'ai déjà dit souvent, Mgr Lefebvre nous disait, on a fait beaucoup de conférences sur ce sujet. On a fait des conférences admirables sur la vertu de religion, les conséquences de la vertu de religion, sur la prière. Il a fait surtout beaucoup de conférences, soit dans les préparations aux ordres, quand on devait recevoir des ordres, par exemple les ordres mineurs, soit même surtout les ordres majeurs, c'est-à-dire le sous-diaconat, le diaconat, la vertu du sacerdoce. Mgr Lefebvre souvent nous prêchait ses retraites lui-même. Oui, je suis aussi des retraites sur ces sujets-là pendant la Semaine Sainte. Pendant la Semaine Sainte, quand j'étais à Écône, il y avait toujours une retraite lundi, mardi et mercredi saint. Donc avant le Triduum Sacré, avant les grands offices de la Semaine Sainte, Mgr Lefebvre souvent nous donnait lui-même une retraite. Et de nombreuses circonstances, il prenait comme base de sa retraite le traité sur la religion. Il nous a dit que c'est le plus beau traité de saint Thomas. Bon, c'est une question un petit peu de goût personnel, hein, mais je pense qu'il a raison. La première chose que saint Thomas va expliquer, et ça aide à comprendre l'importance du traité, c'est l'explication du terme même religion. Bon, donc il va se poser la question, qu'est-ce que c'est que la vertu de religion, hein? Donc il va commencer par citer un auteur païen, Cicéron, qui disait « une vertu qui rend à la nature suprême le culte qui lui est dû ». Donc il parle, là c'est pas un païen qui parle. Mais pour un catholique, c'est un petit peu la même définition, sauf que nous, on élève le débat. N'oublions pas qu'il y a des païens qui sont arrivés proches de la foi catholique. Je donne toujours comme exemple, parce que ça me semble très important, que c'est Aristote qui vivait pourtant 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, et qui en plus, au plan peut-être personnel, n'était pas une... d'une grande santé personnelle, hein, moins qu'on puisse dire, mais il avait une intelligence qui l'est tournée vers le vrai. Mais Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, avait découvert l'existence de Dieu par des moyens purement naturels. C'est ce qu'on appelle les 5 preuves de l'existence de Dieu, non simplement par le mouvement, par l'ordre qui régnait dans le monde, par la cause efficiente, par toutes ces choses-là, et bien il avait réussi à comprendre. Il y a une organisation, c'était des gens qui réfléchissaient. Donc il disait, puisqu'il y a un ordre dans le monde, il y a l'ordre des saisons qui se succèdent, il y a l'ordre de la nuit qui succède au jour. C'est des gens qui étaient intelligents, donc qui avaient compris que ces choses-là ne pouvaient pas arriver toutes seules. Et il avait dit, c'est pas possible, ceci ne peut pas exister sans qu'il y ait une intelligence qui gouverne le monde. Sans qu'il y ait un premier moteur, une première cause efficiente qui gouverne le monde. Et il avait appelé ça Dieu. Il avait raison. Bon, bien sûr, il n'avait rien compris. Il ne pouvait pas atteindre de façon naturelle l'incarnation, la Sainte Trinité, la rédemption, c'était impossible. Mais ça laisse rêveur. Quand on voit que ces gens-là, qui vivaient 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, qui étaient des païens, avaient réussi à comprendre ces choses-là, que les gens modernes du 21e siècle, dans leur immense majorité, sont incapables de comprendre. Vous prenez ces soi-disant spécialistes ou scientifiques du monde moderne, qui sont incapables d'arriver à comprendre qu'une horloge ne peut pas exister sans un horloger, qu'une montre ne peut pas exister sans quelqu'un qui l'ait faite. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc ils vont essayer de nous dire, mais tout se fait par hasard, tout ça c'est le fruit du hasard, et par le fruit du hasard, on finira par trouver créer la vie. Mais c'est impossible, parce que du moins ne peut pas arriver le plus, du plus peut arriver le mien, le moins. Alors c'est pour ça qu'ils nous bassinent à longueur de journée sur la soi-disant évolution, comme quoi on va arriver à avoir un homme de plus en plus intelligent, on finir par découvrir toutes ces choses. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est des gens qui n'aiment pas du tout quand je dis ça, mais c'est parfaitement exact. Moi, je crois en l'évolution, une évolution régressive. C'est-à-dire que du singe, on ne peut pas faire un homme, mais d'un homme, on peut certainement faire un singe. Surtout actuellement, ça arrive de plus en plus. On s'en rend compte partout où il y a un degré de bêtise dans l'humanité actuellement qui n'existait pas auparavant. Eh bien, je crois que l'étude de la vertu de religion peut aider justement les gens réfléchir sur l'importance de Dieu pour nous. Et donc saint Thomas va partir d'un point purement naturel au début pour essayer d'expliquer le mot religion. Donc il va donner 3 explications. Donc soit il va dire ça vient du mot relier, soit du mot relire, soit du mot réélire. Bon. Là je crois que c'est important. Si on a compris ça, on comprend déjà la moitié de la signification du mot religion. Donc première racine du mot religion, relire, re-legere en latin. Relire, ça veut dire quoi? Ça veut dire relire dans notre cœur tout ce qui appartient au culte divin. Puisque on peut, même simplement avec une loi purement naturelle, on peut arriver à prouver l'existence de Dieu. Et bien, donc dans notre cœur, il faut relire constamment ce qu'on sait sur Dieu et sur le culte qui lui est dû. Donc, saint Thomas dit donc que le mot religion viendrait de relire, ce qui relève du culte divin, parce qu'il faut fréquemment y revenir dans notre cœur. Deuxième étymologie, réélire. Réélire. Réélire, ça veut dire re-choisir. Eligere, c'est choisir en latin. Donc, re-ligere viendrait de ré-eligere, re-choisir. Et il dit, on peut entendre la religion du devoir de réélire Dieu comme le bien suprême délaissé par nos négligences. Ça, c'est une synthèse de saint Augustin. C'est très vrai. C'est-à-dire que la religion consiste à re-choisir Dieu et le mettre au centre de notre cœur. On met le bon Dieu au centre de notre cœur. En principe, au début de journée, puis après, dans la pratique, à cause des activités journalières, des activités matérielles qui se passent à droite et à gauche, on finit par oublier un petit peu que le bon Dieu doit être mis au centre de notre cœur. Donc, régulièrement dans la journée, il faut s'arrêter et remettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de notre cœur. Il y a certains ordres religieux qui appelaient ça prier l'heure. À chaque fois que l'heure sonnait au clocher, il s'arrêtait quelques secondes, c'est une très bonne coutume, il s'arrêtait quelques secondes, une demi-minute, pour une nouvelle heure qui sonne, Remettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de leur cœur, de leurs activités. Voilà, mon Dieu, je suis obligé de faire des choses matérielles parce que ben, je suis bien obligé à cause de mon devoir d'État, ben, à cause de mon travail, à cause de mon boulot. Et ils peuvent, il y a des gens qui font ça aussi parmi les laïcs, même dans des milieux complètement profanes. Ils peuvent s'arrêter pendant. Alors, tiens, c'est l'heure, il est 10 h du matin, l'heure vient de sonner. Mon Dieu, eh bien, je vous offre le travail que je fais actuellement. Actuellement, je fais un travail purement matériel, en fonction du travail qui est le mien, de la fonction qui est la mienne, mais je vous l'offre. Et puis l'heure suivante, 11 h, il recommence. Ça prend 10 secondes, 20 secondes, ça permet de réélire. Ça, la phrase est belle de saint Augustin, rechoisir Dieu comme le bien suprême délaissé. Troisième étymologie, qui est aussi très belle, relier. Relier, religare. Donc soit religere, hein, relire, soit rééligérer et réélire, soit religare, relier. Relier, c'est quoi? Toujours saint Augustin, on peut dériver, faire dériver religion de relier la religion dans notre liaison au Dieu unique et tout-puissant. En quelque sorte, la religion nous permet de rétablir le contact avec Dieu. Bon. Ce contact avec Dieu, on l'a par la force des choses, parce qu'on a été créé par lui, que ça nous plaise ou non. Qu'on soit un païen ou non, ou un catholique, on est tous créés par Dieu. C'est aussi, encore une fois, il faut que beaucoup de catholiques comprennent ces choses-là. Et c'est que ne sont tenus par la loi, par la vertu de justice à l'égard de Dieu, par la vertu de religion, pas simplement les catholiques, mais aussi les non-catholiques. Vous prenez un non-catholique, et bien, il a été créé par Dieu. Il ne le sait peut-être pas, il le nie, mais il a été créé par Dieu, que ça lui plaise ou non. Et donc, il a le devoir de se rappeler qu'il est relié à Dieu. Hein, c'est le pont, en quelque sorte, qui relie l'homme à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que le prêtre, l'évêque par excellence, est le pontife. Le pontife, ça vient du mot ponce. J'expliquais ça au sermon dimanche. Ponce, c'est le pont. Donc, relier, c'est celui qui relie le ciel et la terre. Le rôle du prêtre. Donc, le prêtre amène notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel par la Sainte Messe, et par ce moyen, il relie Dieu et la terre, le Créateur et la créature. Et c'est pour ça que les grâces que le bon Dieu donne sur la terre passent par la Sainte Messe. Alors, je vous donne ici le texte de saint Thomas lui-même. Quelle que soit l'origine du mot religion, que les uns font dériver de relire, d'autres de relier, d'autres de réélire, il est certain que la religion implique rapport à Dieu seul, auquel nous devons principalement nous lier comme à notre principe indéfectible, et qu'après le péché, nous devons réélire comme notre fin dernière par le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait le démon? Le démon essaie de rentrer dans une âme. Donc l'âme a choisi Dieu en début de journée, en début de vie, par le baptême. Eh bien, le démon essaie de pousser littéralement l'âme à oublier que le bon Dieu doit être le centre de toute sa fonction, de tout ce qu'elle fait, et petit à petit de s'arranger pour que le bon Dieu soit mis de côté et que le démon puisse prendre la place. On voit très bien, c'est toute l'histoire du monde. L'histoire du monde, c'est ça. Avant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le paganisme complet. Donc l'adoration des arbres, l'adoration du soleil, l'adoration des étoiles, l'adoration des rocs, l'adoration des arbres, l'adoration de tout. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive pour donner la véritable fonction de l'homme sur la terre. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. L'Église va mettre pratiquement 12 siècles pour faire entrer cela dans le monde moderne, au moins en Europe. Et c'est ce qui s'est passé en Europe. C'est pour ça qu'on appelle le 12e, justement 13 siècles même, le 13e siècle en Europe, qu'on appelle l'âge d'or à cause de ça. L'âge d'or du christianisme, c'est le 13e siècle, avec saint Thomas d'Aquin, entre autres, parce que c'est le cerveau, la cervelle elle-même qui devient catholique dans l'homme. Voyez? C'est pour ça qu'on dit que la mort de saint Thomas, 1274, c'est la fin du Moyen-Âge chrétien, la fin de l'âge d'or chrétien. Donc on part, si vous voulez, avant notre Seigneur Jésus-Christ, des bas-fonds, on monte avec notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui infuse la vérité et qui charge Saint-Pierre et son Église de lier sur la terre pour pouvoir lier au ciel, et délier sur la terre pour pouvoir délier au ciel. Et c'est toute l'œuvre missionnaire des premiers siècles de l'Église. D'abord les martyrs épouvantables, les martyrs très très nombreux, autour de 10 à 14 millions d'après d'Arras, dans les premiers siècles de l'Église. Ensuite la paix qui revient avec la conversion de Constantin en 313, et puis malgré les hérésies, tous ces docteurs de l'Église qui vont écraser les hérésies pour que l'âme puisse se libérer et monter un petit peu comme un oiseau qui commence à monter vers le ciel. On arrive au XIIIe siècle, donc l'âge du christianisme, avec l'homme politique qui devient chrétien, ça c'est capital parce que c'est l'homme politique qui mène la société, donc c'est le siècle de, siècle de Saint Thomas d'Aquin, c'est aussi le siècle de Saint Louis, hein, on ne dit pas ça. Saint-Louis qui dirige la France, et le cousin de Saint-Louis, en Espagne, donc Saint-Ferdinand, pardon, qui dirigeait l'Espagne. Il y a Saint-Othon en Allemagne, il y a un peu avant, un peu après, il y a Saint-Édouard en Angleterre. On sent que petit à petit, l'homme devient chrétien, qui veut devenir chrétien dans son intelligence, parce que l'intelligence gouverne tout, eh bien, l'homme, dans son intelligence, veut se donner des chefs chrétiens. Et on arrive avec la mort de Saint Thomas au début de la décadence. La décadence, c'est pas aujourd'hui, la décadence, elle a commencé à la fin du XIIIe siècle. À la mort de Saint Thomas d'Aquin, c'est l'arrivée de l'humanisme. L'humanisme, donc, c'est la Renaissance. C'est l'influence d'Erasme, l'influence de Descartes, et puis c'est des débuts d'Adrien Goulade. Donc, on voit très bien tout ce que l'Église avait essayé de faire, à savoir de rechoisir, de relier, de relire sur un plan catholique tous les éléments de la création du bon Dieu. Eh bien, on peut comparer ça, si vous voulez, une femme qui fait un tricot, par exemple. Donc, elle prend son fil de laine et puis elle tricote. Et on voit apparaître une belle œuvre de tricotage. Qu'est-ce qu'il fait le démon ? Le démon, il cherche à prendre le fil et à tirer. Quand un tricot, on peut mettre des heures et des heures à faire un beau tricot. Mais pour le détricoter, il faut quelques secondes, hein, pour tirer sur le fil et tout ça. C'est exactement ce qu'a fait le démon à partir de la fin du XIIIe siècle, avec la Renaissance, puis ensuite le protestantisme du XVIe siècle, puis ensuite l'arrivée de la franc-maçonnerie au début du XVIIIe, 1717, puis la Révolution française, puis l'exportation de la Révolution française avec la Révolution de 1848 et la préparation avec la Première Internationale, la préparation aussi de la Révolution russe. Et on voit petit à petit tous les acquis de tout le Moyen-Âge chrétien qui s'effondrent. Alors on avait encore, heureusement à cette époque-là, les papes, qui faisait une espèce de barrage à toutes ces idées. Donc on avait encore des grands docteurs, des grands écrivains, je vois par exemple au 19e siècle, enfin, c'est extraordinaire de voir cette floraison d'écrivains, dont beaucoup sont des laïcs d'ailleurs, je pense à Louis Veuillot par exemple au 19e siècle, vous avez Mgr de Ségur, Mgr Gault, Mgr Join, l'abbé Barbier, tous ces grands écrivains, donc qui organise la contre-révolution pour essayer de freiner la chute vers l'abîme. Et arrive la mort du pape Pie XII, 1958, et là on a vraiment l'impression que, humainement parlant, le démon remporte la victoire, ou les vannes. Alors c'est l'arrivée de la nouvelle église de Vatican II, avec Roncalli et tous les faux papes depuis la mort du pape Pie XII, alors là maintenant plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut maintenant remonter en arrière, parce qu'il y a quand même, Dieu merci, l'Église de Vatican II a tout détruit, mais n'a pas pu détruire l'Église catholique en elle-même, attention. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis que les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Donc, il ne s'agit pas maintenant, contrairement à ce que beaucoup croient, d'arrêter notre descente. Donc, on a dégringolé, c'est l'image d'un ruisseau qui descend la montagne, donc on a dégringolé avec le ruisseau. Il ne s'agit pas de se dire, bon, ben, on a arrêté la chute, Dieu gracieux. Il faut remonter au point de départ. Hein. Et c'est beaucoup plus difficile de remonter au point de départ que de s'arrêter dans la chute. Et c'est tout le traité de la religion, justement, qui nous aide à comprendre. Là, c'est là. Je pense qu'on peut dire que la vertu de religion, c'est la vertu de religion et le début de la tertiaire part, c'est-à-dire tout le coup traité sur l'incarnation qui suit. Juste après la vertu de religion, donc, après les dernières questions de la vertu de religion, c'est la question 122, après on change de partie, on passe à la tertiaire part, troisième partie de la somme, et alors là c'est l'incarnation. Donc on arrive au sommet, si vous voulez. Mais on peut déjà dire qu'avec le traité sur la vertu de religion, saint Thomas arrive au sommet de sa puissance théologique. Alors, on peut citer une phrase de Saint Jacques, donc, qui explique avec d'autres termes ce qu'est la vertu de religion. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, c'est d'assister les orphelins et de se couper de l'esprit du monde. C'est ce que dit Saint Jacques. Je vais vous citer le texte exact, là dans le livre que je suis. Donc c'est Saint Jacques, chapitre 1, verset 27. Voilà le texte qui peut être aussi expliqué, pour expliquer ce qu'est, pour donner l'explication de la vertu de religion. Voilà ce qu'il dit. La religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père n'est pas autre qu'avoir soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se préserver pur des souillures de ce monde. Oui. Alors, la vertu de religion, donc, désigne le culte de Dieu. Le culte de Dieu, qu'on appelait, avant on a utilisé un terme spécial qui a un peu disparu du vocabulaire français, le culte de l'atrie. Le culte de l'atrie, c'est le culte d'adoration. Donc, le culte de l'atrie, c'est le culte d'adoration, c'est la première fin de la messe, la fin d'adoration. Donc, on appelle ça la fin latretique à cause de l'origine latrie. Donc, le culte de l'atrie est un culte qu'on rend à Dieu seul. Donc, même les païens avaient compris ça, parce que c'est intéressant de voir que même avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas une seule société civile, pas une seule religion, pourtant il y avait pas une seule culture païenne qui n'avait pas des dieux. Il y a personne, l'athéisme tel qu'on l'entend aujourd'hui n'existait pas dans l'histoire du monde avant notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les civilisations avaient des dieux. Ils avaient des faux dieux pour la plupart. Mais ils avaient tous des dieux parce que pour eux, il était impensable que le monde puisse exister sans l'existence d'un dieu. Donc, ils imaginaient des dieux. Alors, c'était des faux dieux. Ils allaient adorer, les Aztèques allaient adorer le soleil. Bon, même aujourd'hui, les gens qui ne sont pas chrétiens, je pense par exemple, en Inde par exemple, ils vont adorer Shiva ou les vaches sacrées. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose. Il faut quelque chose qui nous relie à Dieu. Il faut arriver au degré de bêtise dans lequel sont tombés maintenant les soi-disant intellectuels français, surtout en France que ça se passe, pour arriver à avoir des gens tellement bêtes qui finissent par croire qu'il n'y a pas besoin de Dieu. C'est la société française, la société laïque par excellence. Même des sociétés complètement pourries comme les sociétés islamiques reconnaissent la nécessité d'avoir un État islamique, un État politique islamique qui soit uni à la religion islamique. Donc on peut avoir dans le monde, d'après le monde moderne, on peut avoir des pays islamiques avec une union de l'Église et de l'État dans l'islam. On peut avoir des sociétés politiques protestantes, par exemple en Suède, par exemple au Danemark, tous ces pays-là, le protestantisme et la religion politique sont entièrement liés. Il serait impensable pour eux, et ils sont logiques avec eux-mêmes, par exemple, que quelqu'un de catholique puisse devenir chef d'État, c'est impossible. Donc on peut avoir pratiquement tout, sauf en France, où on est arrivé à un tel degré de bêtise qu'on pense qu'il faut une religion, il faut le laïcisme. Donc on verra tout ça dans les différentes objections. Donc c'est très intéressant de comprendre que le laïcisme français, c'est-à-dire l'absence de Dieu dans la vie publique, en fait, est une fausse absence. Parce que ils se rendent très bien, même des gens aussi pourris que nos politiciens en France se rendent compte qu'il faut une religion française. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Détruire complètement la religion catholique, mais remplacer ça par une autre religion que la religion du laïcisme. Donc la démocratie républicaine laïque en France, c'est la nouvelle religion. Et ils sont logiques avec eux-mêmes. C'est pour ça que les politiciens français font la guerre à mort contre tous ceux qui pensent qu'ils sont politiquement incorrects. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent à leur religion, ce qu'on applique à notre religion véritable, à l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Ils disent la même chose. Hors de la religion laïque, il n'y a pas de salut. On m'a donné ce que j'ai là. Il y a un livre dont j'ai oublié le titre que j'ai lu la semaine dernière, mais je l'ai prêté à quelqu'un, Youssef Hindi, justement sur le laïcisme, qui sont doute pas catholique, je pense que c'est un musulman, mais il montre très bien justement avec les textes de Payon et de Ferdinand Buisson, donc un des ministres de Combes. Donc il montre très bien que en fait ce qu'ils veulent faire c'est une religion, mais qui efface complètement le rapport au divin. Donc il faut qu'il y ait un nouveau Dieu, ce nouveau Dieu c'est la démocratie laïque. Et oui, tout ça, ce traité est tellement important. Alors, donc, ce qui est important de comprendre, je pense que la conclusion de saint Thomas là est très importante, à savoir que la religion, au sens propre, implique un ordre à Dieu. Voilà ce qu'il dit, c'est à lui que nous devons nous attacher avant tout, comme au principe indéfectible, lui aussi, que sans relâche notre choix de rechercher comme notre fin ultime, lui encore que nous avons négligé, perdu par le péché, et que nous devons recouvrer en croyant et en témoignant de notre foi. Corriger là. Donc, article 2, la religion est-elle une vertu, hein? Donc, la vertu, la définition traditionnelle, c'est habitus operativus bonus, donc un habitus qui nous fait œuvrer dans le bien. Donc, tout acte bon revient à une vertu, donc puisque la religion a pour propre de rendre Dieu l'honneur qui lui est dû, donc la religion est nécessairement une vertu, hein? Alors, est-ce que cette vertu est unique ? Article 3 de la question 80. Donc là, saint Thomas, on voit bien avec la question 80, ouvre, explique un petit peu les différentes allées qu'on va devoir, sur lesquelles on va devoir cheminer pendant tout le traité sur la vertu de religion. La religion est-elle une seule vertu ? Oui, parce qu'il y a un seul Dieu, une seule foi. C'est saint Paul aux Éphésiens. Alors, qui est dans la religion plusieurs actes ? C'est vrai. Mais même s'il y a une multiplicité d'actes dans la vertu de religion, il n'en reste pas moins que c'est une vertu de religion qui est unique, par laquelle nous professons l'excellence suprême de la divinité et notre propre dépendance. Donc il y a deux choses. C'est d'abord reconnaître qu'il y a un créateur, donc reconnaître une divinité, parce que celui qui a créé, qui crée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, automatiquement lui, il n'y a que Dieu qui peut créer. Donc première étape dans la vertu de religion, reconnaître qu'on a un créateur. Deuxième étape, puisqu'il y a un créateur qui est unique, donc nous sommes des créatures, et étant des créatures, nous avons l'obligation de nous soumettre au Créateur. C'est la deuxième partie de la vertu de religion. Première partie de la vertu de religion, reconnaître qu'il y a un Dieu. Deuxième partie de la vertu de religion, puisque ce Dieu nous a créés, il y a l'obligation pour nous d'aller vers lui, et donc d'obéir à sa loi. Puisqu'il est le patron, il a le droit de nous donner un mode d'emploi dans tout ce que nous faisons. Donc, qui dit Créateur, dit immédiatement droit. Qui dit créature dit immédiatement devoir. Et là encore, c'est très important à faire cette distinction pour remettre un peu les pendules à l'heure, les barres sur les T et les points sur les I. C'est que le monde moderne refuse catégoriquement le terme de créateur, parce que qui dit créateur dit Dieu, et qui dit créateur dit disant Dieu, puisqu'il y a un Dieu à ce moment-là, ça veut dire que l'homme a des devoirs. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre parler. Donc, ils vont vous sortir que l'homme prend la place de Dieu. L'homme étant Dieu devient son propre créateur. Et donc, on parle des droits de l'homme. Dans l'Église catholique, les droits de l'homme n'existent pas. Et les droits de Dieu. Et donc, les devoirs de l'homme par rapport à Dieu. Une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Et on sent très bien qu'ils sont... Dans le monde moderne, et surtout en France, c'est certainement un des pays les plus pourris sur le plan intellectuel dans le monde, on sent très bien en France cette une espèce d'idée fixe chez eux d'arriver à éliminer complètement l'idée même que le créationnisme est possible. Et on sent très bien, ils vont en arriver à ça. C'est-à-dire de même qu'actuellement, on n'a plus le droit de parler de certaines parties, par exemple, de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, rapport avec les juifs et tout ça, ce sont des sujets qui sont littéralement interdits. De la même façon, on va en arriver, si on y va tout droit, on va en arriver à avoir interdiction en France de dire, par exemple, qu'il y a un Dieu créateur au-dessus des hommes. Parce que déclarer qu'il y a un Dieu créateur au-dessus des hommes, ça veut dire ipso facto que l'homme est créature. Et ça, le monde moderne ne veut pas entendre parler. Alors, la tristesse, la catastrophe qui nous pend au nez actuellement, c'est que les personnes qui sont en principe chargées justement de rappeler ces choses-là, qui sont des choses de bon sens élémentaire, à savoir l'Église catholique, ben maintenant l'Église catholique en tant que telle est toujours là, bien sûr, mais elle s'est réduite comme une peau de chagrin. Et ceux qui prétendent être les représentants de Dieu sur la terre, à savoir l'Église de Vatican II, eh bien, ils ne parlent plus du bon Dieu. Il ne parle plus du bon Dieu. On sent très bien que pour Bergoglio et pour toute l'Église de Vatican II, le centre de la vie, c'est l'homme. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il y a deux choses. Ou je suis la vertu de religion pour rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est l'Église catholique. Ou je refuse de rendre à Dieu ce qui lui est dû et j'élimine Dieu. Et la meilleure façon d'éliminer Dieu, c'est de prétendre que l'homme est devenu Dieu. Et à ce moment-là, c'est l'humanisme. D'accord? Donc, ou je suis la loi du bon Dieu avec la loi des 10 commandements de Dieu, les devoirs de l'homme par rapport à Dieu, les droits de Dieu sur nous, ou je suis les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est rien d'autre que la révolte de l'homme contre Dieu qui dit à Dieu, je ne servirai pas. Alors il y a une consolation quand même, qui est pour moi très importante, c'est que le simple fait que tous ces politiciens qui nous guident, ces politicards qui nous guident, luttent tellement contre Dieu. C'est bien la preuve qu'ils y croient. Parce qu'on ne lutte pas contre quelque chose qui n'existe pas. Le simple fait qu'ils en parlent tout le temps, qu'ils assènent à coups de marteau maintenant dans l'âme des enfants que le laïcisme est la nouvelle religion, on sent très bien qu'ils luttent contre Dieu. Donc le fait, simple fait qu'ils luttent contre Dieu, ben, c'est qu'ils croient en Dieu. C'est ça le drame. Le drame, c'est qu'ils savent que Dieu existe. Ils savent très bien qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux, mais ils refusent l'évidence. Parce que poursuivre notre Seigneur Jésus-Christ et sa loi, la première vertu qui est nécessaire, c'est la vertu d'humilité. Celui qui ne se fait pas tout petit, comme Dieu s'est fait petit dans le sein de sa très sainte mère, eh bien, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Et on le voit très bien, c'est ce qui explique dans la civilisation actuelle, dans le monde moderne, on voit très bien en France surtout, et dans d'autres pays aussi, on le voit très bien, qu'ils poussent les enfants constamment à se prendre pour des dieux. C'est pour ça qu'ils insistent tellement sur le culte de l'écran, toute cette électronique, ces jeux électroniques, qui donnent l'impression aux enfants qu'ils manipulent tout, qu'ils contrôlent le monde avec leurs petits jeux électroniques, quoi. Et ils ne peuvent plus s'en passer maintenant, parce que c'est pour eux l'unique moyen, c'est pour les politiciens actuels, l'unique moyen de maintenir les hommes en état d'esclavage par rapport à leurs idées. Alors, rapidement, donc, on a déjà fait un petit peu les points importants de cette question numéro 81. Question numéro 81 est comme l'introduction l'introduction de saint Thomas d'Aquin au traité sur la religion. Voyons rapidement les autres articles, parce qu'il y a 8 articles dans cette introduction. Donc, la religion est-elle une vertu spécialement distincte des autres vertus? Il va répondre positivement. La religion est une vertu particulière, spécialement distincte des autres vertus. Pourquoi? Parce que, dit-il, l'honneur est dû à quelqu'un en raison de son excellence. Et Dieu, qui a une excellence toute spéciale, puisqu'il est infiniment élevé au-dessus de tous les êtres, a droit à un honneur particulier. D'ailleurs, on le voit très bien. C'est pour ça que la vertu de piété, dont on parlera plus tard, la vertu de piété n'a pas simplement pour objet Dieu, mais on a aussi une piété par rapport à nos supérieurs temporels. Des enfants doivent avoir de la piété pour leurs parents. Bon. Alors que de la même façon qu'on doit avoir la piété pour Dieu, on doit avoir une certaine piété aussi pour nos parents, les gens à qui nous devons beaucoup, tout simplement. On doit avoir de la piété en général à l'égard de nos bienfaiteurs. C'est intéressant de voir qu'on utilise en français le même terme pour la piété à l'égard de nos bienfaiteurs et la piété à l'égard de Dieu à qui on doit tout. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que cette vertu de religion n'embrasse point les œuvres des autres vertus, elle commande à toutes celles qui ont pour but la gloire de Dieu, soit qu'elles les prescrivent, soit qu'elles les produisent. Donc, la religion est-elle une vertu théologale? Article 5. Alors, vous connaissez le catéchisme, vous pouvez y répondre par vous-même. Non, ce n'est pas une vertu théologale, puisqu'il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Bon. La foi, l'espérance et la charité, là on est dans les vertus cardinal, prudence, justice, force, tempérance. On est en justice. Donc ce n'est pas une vertu théologale, Ce qui fait que même dans la vertu de religion, il va y avoir un équilibre, parce que toutes les vertus cardinales, on est dans les vertus cardinales, doivent avoir un équilibre. Donc, Jésus a expliqué souvent que les vertus théologales peuvent progresser à l'infini. On ne peut pas avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité. Mais la vertu de religion, étant une vertu cardinale, va aussi passer par la sagesse qui va déterminer dans quelle occasion et dans quel comportement, dans quelle situation il faut pratiquer cette vertu de religion. C'est qu'on ne demande pas à un laïc qui vit dans le monde de pratiquer sa vertu de religion en longueur de journée. On ne va pas lui demander de parler du bon Dieu en longueur de journée s'il est dans une entreprise. Bon, il n'est pas obligé de parler à longueur de journée de Dieu. Il est obligé dans ses actions d'agir comme catholique à longueur de journée, mais il ne peut pas tout le temps parler de Dieu. C'est impossible. Donc, la réponse est négative. La religion n'est pas une vertu théologale. Pourquoi ? Parce qu'elle n'atteint pas Dieu immédiatement comme la foi. Elle concerne seulement les moyens de nous élever à Dieu et est une vertu morale et non une vertu théologale. Donc, elle n'a pas Dieu directement pour fin, mais les moyens d'atteindre Dieu. Donc, la religion est une vertu morale commandée par les vertus théologales. Donc, il était évident qu'il ne faut pas non plus séparer les choses. On ne va pas séparer la vertu de religion et la vertu de charité. La vertu de religion est nécessaire pour pratiquer la vertu de charité. C'est pour ça qu'on peut dire que la vertu morale ou cardinale de religion est commandée par les vertus théologales, foi, espérance, charité. Donc tout traité de la vertu de religion, tout un traité sur une vertu cardinale, va être éclairé d'en haut par les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Il faut prier. C'est l'espérance, il faut croire, c'est la foi, et il faut obéir à la loi du bon Dieu, c'est la charité. Donc ça, j'aime bien cette petite note là qui est dans le Père Le Breton. La religion est une vertu morale commandée par les vertus théologales, elle fait partie de la justice, qui est une vertu morale. Article 6 de la question 81. La religion l'emporte-t-elle sur toutes les autres vertus morales? Eh bien oui, c'est la plus importante des vertus morales. Pourquoi ? Parce qu'elle est la plus excellente de toutes les vertus morales. Pourquoi ? Parce que parmi les vertus morales qui toutes se rapportent à Dieu comme des moyens de fin, la religion dont le propre est de produire directement et immédiatement des œuvres en l'honneur de la divinité approche de Dieu plus que les autres. Bon. Comme le but de la vertu de religion, c'est de nous relier à Dieu, Dieu étant la chose la plus importante qui puisse exister dans notre vie, donc la vertu de religion est une vertu morale qui l'emporte sur toutes les autres. Septièmement, la religion a-t-elle des actes extérieurs? On s'en verra ça plus tard, mais la réponse est oui. Ça, c'est très important à comprendre, que la vertu de religion, contrairement à ce que disent les modernes, n'est pas simplement une vertu interne. Au fond de mon cœur, vous êtes religieux, très bien. D'ailleurs, ça, j'aime pas le gouvernement mondial actuel. Donc, vous voulez être catholique au fond de votre âme, très bien, ça, j'aime pas. Vous voulez fermer votre porte et vous mettre à genoux devant votre crucifix et prier pendant des heures à la maison avec vos enfants, ça ne nous gêne pas. Mais venez pas mettre votre religion dehors. Donc, on voit bien la religion dans le monde moderne, à condition que ça reste exclusivement du domaine privé. Comme si Dieu avait créé que la sphère privée et n'avait pas créé la sphère publique. Et le drame, c'est qu'on arrive à avoir maintenant, c'est une partie du modernisme, parmi les modernistes, des gens qui prétendent qu'il faut séparer l'Église et la religion. Ils ne se rendent pas compte qu'en séparant l'Église et la religion, on élimine tout simplement l'influence divine sur la terre. Et si la terre est en train de devenir une gigantesque jungle, il n'y a pas d'autre mot, avec des requins qui se mangent, qui se grignotent les uns les autres, qui se mangent les uns les autres, c'est le monde moderne, c'est tout simplement parce qu'on a éliminé le bon Dieu de la société. Alors, quand on élimine le bon Dieu de la société, et la société ayant horreur du vide, eh bien, c'est le monde qui prend la place. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'a fait la religion catholique dans le monde? La religion catholique dans le monde a amené la vertu de charité. On voit très bien, surtout au Moyen-Âge, donc c'est toute la charité chrétienne. Alors, qu'est-ce que fait le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge va s'occuper des petits, des pauvres dont personne ne s'est jamais occupé auparavant. On voit très bien dans toutes les civilisations avant notre Seigneur Jésus-Christ, le mépris des petits, le mépris des... On va voir ça chez les Grecs, chez les Romains, partout, le mépris des petits. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église, va rendre justement la dignité aux petits, va s'occuper des petits, c'est toutes les œuvres de charité, c'est un Saint-François de Sales, c'est un Saint-François, Saint-Vincent de Paul, c'est toutes ces œuvres de charité extraordinaires à l'égard des petits, c'est on oublie aussi constamment de le dire, c'est que toutes les œuvres de charité au Moyen-Âge était toute exclusivement catholique. Il n'y avait que les catholiques à faire ça. Personne n'allait s'occuper des miséreux dans la rue, sauf les bonnes sœurs. Hein. Personne n'allait s'occuper des mourants, des ce qu'on appelait les intouchables à l'époque. Les intouchables, c'était les pestiférés, c'était les gens qui étaient les scorfuleux, c'était des gens qui avaient des furoncles sur tout le corps, qui étaient vraiment mais mis au rebut, on est parqués dans un coin, un peu comme les lépreux au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les seuls qui allaient s'occuper d'eux, c'était qui? Ben, c'était les catholiques. C'était toute l'œuvre du Moyen-Âge, l'œuvre de charité du Moyen-Âge, la formation des hôtels-dieux, la formation des hôpitaux. Ça. À tel point que lorsque la Révolution est arrivée en 1789 en France, ils ont supprimé tout ça, ils ont coupé le cou à tous les religieux sur lesquels ils ont pu tomber, et les religieux sur lesquels ils ont pu tomber aussi, il y a eu des milliers et des milliers de martyrs à ce moment-là. Ben, à ce moment-là, d'un seul coup, la Révolution s'est rendue compte qu'il n'y avait plus d'école, qu'il n'y avait plus d'hôpitaux, qu'il n'y avait plus rien. Alors, ils ont essayé de faire rattraper les choses un peu comme ils ont pu, mais ils n'ont jamais pu rattraper les choses. Donc, la religion, ça c'est un article très important, a des actes extérieurs. Il ne s'agit pas simplement de pratiquer la vertu de religion pendant sa prière du matin, sa prière du soir à la maison, mais aussi publiquement. Donc, elle a des actes extérieurs. Si donc la religion a pour opération, dit saint Thomas à l'article 7, si donc la religion a pour opération principale des actes intérieurs qui lui appartiennent essentiellement, elle a aussi pour opération secondaire des actes extérieurs en rapport avec les actes intérieurs. Hein? On offre les choses extérieures en signe des actes intérieurs et spirituels. Le sacrifice visible est le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré du sacrifice invisible. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? On verra ça plus tard, c'est la tertia pars, mais le sacrement c'est le signe visible d'une grâce invisible. Bon. Donc la vertu de religion, nous rappelant qu'on est enfant de Dieu par le baptême, va nous obliger à pratiquer notre foi catholique, pas simplement intérieurement, mais aussi extérieurement. Et donc la grande idée de la Révolution française, de savoir la séparation entre l'Église et l'État, est une infamie, il n'y a pas d'autre mot, une infamie parce que ça consiste à dire que l'homme, que Dieu n'a plus rien à dire dans la vie politique. Et le pire, c'est là où on se rend compte à quel point le démon a travaillé sur les intelligences, le pire c'est qu'il y a des catholiques, même parfois dans la tradition, j'en ai rencontré, qui vont vous dire qu'il faut effectivement que l'Église et la politique soient unies, mais cela on n'est plus au Moyen-Âge. Mais si on n'unit pas la politique, Dieu et la politique, la religion et la politique ne sont pas unies comme disent les modernes, parfois je le dis même dans la tradition, et bien ça veut dire que Dieu n'a plus rien à dire en matière politique. Il ne faut pas tomber dans le panneau qui consiste à dire que la politique est complètement séparée de Dieu, parce que la politique va toucher des sujets qui sont constamment en rapport avec la divinité. Par exemple, l'avortement, le divorce, la pornographie, les droits des homosexuels et tous ces machins-là, c'est en rapport avec la moralité. Il y a les commandements de Dieu qui régissent ces choses-là. Quand Dieu dit « tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni », ça veut dire que le mariage est indissoluble. Hein? Quand Dieu dit par ses commandements, œuvre de chair ne désira qu'en mariage seulement, ça institue le sacrement de mariage. Hein? Et quand Dieu parle du mariage, il parle du mariage en tant qu'union entre un homme et une femme, avec intention d'avoir des enfants. Vous voyez, donc tout ça est extrêmement important. On ne peut pas accepter ces nouvelles théories, qui sont les théories de Bergoglio, comme quoi la religion est quelque chose de purement privé. La religion a quelque chose à faire dans l'État. Donc un État catholique devrait interdire le divorce, un État catholique devrait interdire la pornographie, un État catholique devrait interdire l'avortement, tout ça. Quand on pense qu'on arrive dans un pays qui était anciennement catholique, la France n'est plus un pays catholique malheureusement, mais qu'on arrive à pratiquement 250 000 avortements par an en France, bon, c'est pas pour rien d'ailleurs que ça correspond au nombre de migrants qui rentrent dans le pays pratiquement tous les ans. Et on voit très bien que Dieu châtie la France. Vous découpez rondelles, mes enfants dans le ventre de leur mère, et bien vous allez vous faire découper en rondelles, c'est exactement ce qui se passe. Et donc il faut garder bien les idées en place là-dessus, c'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toute l'encyclique de Pie XI, Quas Primas, justement là-dessus, avec toutes les conséquences. Une des conséquences essentielles de cette influence de Dieu sur les choses extérieures, sur les choses politiques, c'est ce qu'on appelle la condamnation de la liberté de conscience. Parce que la liberté de conscience, c'est en quelque sorte l'énergie qui va animer toute la Révolution française, toutes les révolutions qui ont suivi, c'est la liberté de conscience. Hein. Liberté de conscience, c'est quoi? C'est dire, mon âme est indépendante de Dieu. Mon intelligence est indépendante de Dieu. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon intelligence et pas touche à mon intelligence. Chacun utilise son intelligence comme il veut et en fait ce qu'il veut. Pareil pour ma volonté, pareil pour mes passions. Je suis maître de mes passions. Si je veux laisser libre cours à toutes mes passions, à faire n'importe quoi à l'intérieur de mon âme, venez pas toucher à ça, je suis libre de faire ce que je veux. Eh bien, l'Église justement répond en disant l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet de la volonté, c'est le bien. Et comme il n'y a qu'un seul vrai, ben, que ça vous plaise ou non, le bon Dieu vous a donné l'intelligence, non pas pour faire ce que vous voulez, mais pour atteindre le vrai. Oui. Et donc, si on accepte ça encore une fois, il faut bien voir les choses en face et voir les problèmes aux racines. Tant qu'on accepte le principe de la liberté de conscience, eh bien, on ne peut pas remettre notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de la cité, c'est impossible. Et c'est un drame de voir qu'il y a parfois même des catholiques de tradition qui vont penser que la liberté de conscience est une bonne chose. Ça, j'en ai vu. Hein. Alors que la liberté de conscience est condamnée par l'Église. Que les lecteurs, ceux qui m'écoutent sur Internet, s'ils ne croient pas, mais qui relisent tout simplement Quanta Kura depuis Pie IX, 1864, je crois, qui relisent Quanta Kura depuis Pie IX, et ils verront très bien ce que dit Pie IX. Pie IX dit expressément la liberté de conscience est une liberté une liberté de perdition. Hein, une liberté de perdition. Et le Concile Vatican II dit expressément, noir sur blanc, le contraire. Le Concile Vatican II lui enseigne que la liberté de conscience est un droit de tous les hommes qui doit être respecté même par le pouvoir politique. Alors que l'Église catholique et notre Seigneur Jésus-Christ disent la liberté de conscience est une liberté de perdition. Une insanité, dit Pie IX. Bon, évidemment, Pie IX et Bergoglio, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez ? Alors, dernier article. La religion est-elle la même chose que la sainteté? Non. Alors, non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que ce sont deux choses différentes. Bon. On a le devoir de pratiquer la vertu de religion, même si on n'est pas un saint. Il n'y a que les saints qui devaient pratiquer la vertu de religion, à part beaucoup de monde qui pratiquerait cette vertu. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. La pureté et la fermeté, voilà ce qui caractérise la sainteté. La pureté unit l'âme humaine à Dieu après l'avoir dégagée de la souillure des choses inférieures. La fermeté l'attache d'une manière inébranlable à son premier principe et à sa fin dernière. À son premier principe et à sa fin dernière, conformément à cette parole, je suis certain que ni la vie ni la mort, rien ne me séparera de la charité de Dieu. Donc, la sainteté peut se définir l'état habituel d'une âme qui est avouée à Dieu sur l'existence et ses actes. Bon, c'est un peu la vertu de charité. La vertu de charité, c'est rien d'autre que ça, c'est la même chose. La vertu de charité, c'est quoi? C'est l'union entre le Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante. Donc, quelqu'un qui est dans l'état de charité surnaturelle, de vertu théologale de charité, c'est quelqu'un dont l'état habituel de l'âme est dans le fait qu'il a voué à Dieu son existence et tous ses actes. Il veut que Dieu influe sur tout ce qu'il fait. La religion donc s'occupe spécialement des sacrifices et des obligations de ce que compose le culte divin. La sainteté allant plus loin rapporte à Dieu les actes des autres vertus et nous dispose au culte divin par la pratique des bonnes œuvres. Donc si vous voulez, on peut expliquer comme ça. Il se pose la question, la religion est-elle la même chose que la sainteté? Donc la religion va consister à relier nos actions avec Dieu, alors que la sainteté, c'est la pratique de la vertu de charité. Hein? De la vertu de charité. Donc toute personne, même quelqu'un qui n'est pas sainte, a le devoir de pratiquer cette vertu de sainteté. Donc c'est ce que dit saint Thomas ailleurs. Il dit que la perfection de notre âme consiste en la soumission qui rend hommage à la majesté suprême, car tout être est perfectionné par son union avec son supérieur, comme le corps l'est par l'âme, l'air par la lumière. Or, pour s'élever à Dieu, l'esprit humain a besoin du secours des choses sensibles. Selon l'expression de l'apôtre saint Paul aux Romains, les perfections invisibles de Dieu sont manifestées par ce qu'il a été fait. Hein? Donc, c'est très important d'arriver à comprendre que nous avons tous l'obligation grave, sous peine de péché, de pratiquer cette vertu de religion. Donc, sur le polycopier, à la page 100, vous avez un peu d'autres textes, des textes choisi de saint Thomas sur les mêmes articles. Hein. J'ai mis ça un petit peu bout à bout pour vous aider à comprendre. Donc, troisième paragraphe de la page 100 sur le polycopie, il y a deux sortes d'actes attribuer la vertu de religion. Par ses actes propres et immédiats, ce qu'elle aimait nous ordonne uniquement à Dieu, tels sont le sacrifice, l'adoration, etc. Mais on lui attribue aussi d'autres actes émis directement par d'autres vertus qu'elle tient sous son commandement, pour autant qu'elle les ordonne à l'honneur de Dieu. Donc la vertu de religion va commander toute une série d'autres vertus. Ce qu'on a vu auparavant, quand saint Thomas dit que la religion l'emporte sur toutes les autres vertus morales. La vertu qui regarde la fin commande en effet aux vertus qui gouvernent les choses ordonnées à cette fin. C'est à ce titre d'acte commandé qu'on attribuera à la religion la visite des orphelins et des veuves, acte propre de la miséricorde. De même, se garder la contagion du siècle, c'est le texte de saint Jacques que je vous ai lu, se garder la contagion du siècle est un acte commandé par la religion, mais émanant d'un type de tempérance et d'une vertu analogue. En fait, on ne peut pas vraiment séparer toutes ces vertus. C'est ce que dit saint Thomas, l'article 6, donc il dit que cette vertu de religion est la plus excellente de toutes les vertus morales. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a un rapport entre la vertu de religion et les autres vertus morales. Alors, il faut bien pas mélanger les choses, donc je résume ce que j'ai déjà expliqué. La religion n'est pas une vertu théologale dont l'objet est la fin ultime, mais une vertu morale. Donc il regarde les moyens ordonnés à la fin. N'oubliez pas que la vertu théologale est dirigée sur Dieu directement. Les vertus morales, c'est les moyens d'arriver à Dieu. D'accord? C'est pour ça que toutes les vertus morales doivent être équilibrées. On peut tomber d'un côté ou de l'autre, ou trop peu ou pas assez. La religion a donc la primauté parmi toutes les... On résume ainsi, ici c'est le paragraphe 1, 2, 3, 4 de la page 100 sur le polycopier. La religion a donc primauté parmi les vertus morales, la pureté en effet est nécessaire pour que l'âme s'applique à Dieu. C'est parce que l'âme se souille du fait de sa liaison aux choses d'en bas, comme un métal s'avilit par son alliage avec un métal moins noble, ainsi l'argent mêlé au plomb. Or, il faut que l'âme spirituelle se sépare de ses réalités inférieures pour pouvoir s'unir à la réalité suprême. C'est pourquoi une âme sans pureté ne peut s'appliquer à Dieu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui veut pratiquer cette vertu de religion, c'est la conclusion de la, on peut dire, de la question numéro 81 de la Seconda Secondae, donc l'ouverture de ce grand traité sur la vertu de religion. Donc quelqu'un qui ne veut pas mettre notre Seigneur Jésus-Christ à toute première place dans son âme ne peut pas pratiquer la vertu de religion. Et c'est pour ça que les gouvernements actuels font tout pour, en quelque sorte, on sent très bien qu'ils sont, ils font tout pour, en quelque sorte, et faire étouffer les âmes par les choses matérielles. Qu'il y ait tellement de choses matérielles dans la vie des âmes des gens modernes, surtout des enfants, qu'il n'y ait plus de temps pour penser à autre chose. Et donc, ils savent très bien, ils ne sont pas idiots, hein, c'est ça le drame. C'est qu'ils sont, malins. Donc ils savent que les âmes sont faites pour Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir les âmes avec des choses autres que Dieu. Voilà. Et quand on aura rempli l'âme avec des choses matérielles, donc du pain et des jeux, comme on dit, eh bien, il n'y aura plus de place pour mon Dieu, parce que l'âme est déjà prise par des tas d'autres choses. Et on le voit très bien dans le monde moderne, avec dans l'école moderne, par exemple, c'est clair et net. Remplir l'âme de choses matérielles, de choses secondaire pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles et les choses importantes. D'accord ? On a le temps de commencer la question 82, donc j'insiste sur cette introduction à la vertu de religion, donc qui est quelque chose de très très important. Hein. Si la vertu de religion saute, c'est beaucoup de choses qui sautent. Hein. Donc, question 82, donc on va maintenant entrer un peu dans le vif du sujet. Donc je vais vous donner les différents points qu'on va couvrir avec la vertu de religion, au moins dans la première partie. Donc il y a deux parties en quelque sorte dans ce traité. Première partie, c'est des questions 81 à 100. Et deuxième partie, c'est des questions 101 à la question 122. Donc, question 81 à 100, on va couvrir, on a fait déjà l'introduction, c'est la question 81. On va couvrir la dévotion, la prière, l'adoration, hein, dans les actes extérieurs. Les offrandes, les biens donnés à Dieu, les sacrifices, les oblations, les dîmes, etc. Dans la vertu de religion, dans l'usage des choses divines, par les sacrements, le nom de Dieu, les serments, les adjurations, les louanges, etc. Puis ensuite, on va voir, ce que fait toujours saint Thomas, les oppositions, donc les vices opposés à la vertu de religion, de la superstition et l'irreligion, donc différents types de superstitions dans leur nature, dans leurs espèces, et l'irreligion, par la tentation de Dieu, le parjure, le sacrilège, la simonie, etc. Ensuite, deuxième partie de ce traité, donc c'est à partir de la question 101, donc on va voir plus exactement une autre conséquence de la vertu de religion, c'est la vertu de piété, piété filiale, dont le respect au supérieur, donc ça vient de la vertu de religion, attention, le vertu, l'obéissance, nécessité de l'obéissance, et puis évidemment, après avoir étudié la nature de l'obéissance, on étudiera le vice opposé qui est la désobéissance, la reconnaissance. Oui, on voit très bien, saint Thomas va toucher successivement la piété filiale, le respect, la reconnaissance, et même, ça peut étonner, on verra pourquoi, la vengeance. Il y a une véritable vengeance. Venger le nom de Dieu. Voyez. Ensuite, il va toucher à la vérité, à l'amitié, à la libéralité, et au don de piété, qui correspond à la vertu de justice et aux différents préceptes de la vertu de justice. Et ainsi, on terminera avec la question 122, on terminera avec la seconda secundae, avant d'attaquer donc Dieu lui-même dans le Christ. Donc c'est tout traité sur la christologie, hein, ce qu'on appelle de verbo incarnato, du verbe incarné, qui est bon, la partie la plus élevée de la somme théologique de saint Thomas. Hein. Donc, on voit très bien que saint Thomas, dans sa somme, nous monte petit à petit. Il monte petit à petit depuis les tout débuts de la somme. Il monte l'âme vers le bon Dieu. Alors, commençons rapidement la question, au moins l'introduction, la question numéro 82. Donc, il va dire que la première conséquence de la vertu de religion, c'est ce qu'on appelle la dévotion. La dévotion. Et donc, il faut commencer par, évidemment, définir le mot de dévotion. Qu'est-ce que c'est que la dévotion ? La dévotion n'est autre, dit saint Thomas, que la volonté de se livrer promptement au culte de Dieu. Puisque je sais que Dieu est au-dessus de tout, j'ai le devoir grave de reconnaître que Dieu est mon maître. Et c'est très intéressant de voir que, moi j'explique comme ça, à chaque fois que je commence l'exercice Saint-Ignace, première conférence de l'exercice Saint-Ignace, après les règles fonctionnement des exercices, première conférence, c'est ce qu'on appelle le principe et fondement. Le principe et fondement, c'est quoi ? C'est reconnaître que Dieu est au centre de tout, c'est tout. Donc Dieu est au centre de tout, et c'est ce que commence par dire saint Thomas, l'homme a été créé. Voilà, ça c'est la première phrase des exercices saint-Ignace. L'homme est créé. Avec ça, tout est dit. Et c'est cette phrase que le monde moderne ne veut pas. Donc toutes les révolutions se sont faites contre l'Église, contre cette phrase, l'homme est créé. Si je dis l'homme est créé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'étant créature, j'ai des devoirs. C'est tout. J'ai des devoirs par rapport à qui ? Ben, par rapport à celui qui m'a créé. Donc, si quelqu'un m'a créé, donc il est au-dessus de moi. Si moi j'étais créé, je suis en dessous, donc il a des droits, j'ai des devoirs. Et donc, la religion catholique consiste à quoi ? D'une part, à connaître les droits de Dieu sur nous, et d'autre part, de connaître les devoirs que nous avons à l'égard de ce Dieu de qui on a tout reçu. Et c'est toute la, tout le, si vous voulez, le début, si vous voulez, des exercices, c'est-à-dire comprendre les devoirs de l'homme. Donc s'il est un mot qui va avec ses devoirs, c'est obéissance, évidemment. Obéissance, humilité. Donc il y a trois mots essentiels pour commencer le travail de conversion. Devoir, obéissance, humilité. Et en face de ça, c'est la révolution. Au lieu des devoirs, on parle des droits. Au lieu d'obéissance, on parle de la désobéissance, et au lieu de l'humilité, on parle de l'orgueil. Avec ça, vous avez tout le monde moderne. Quoi. C'est pour ça qu'on voit très bien que cette espèce de nouvelle religion, qui est la religion démocratique, laïque du monde moderne, est une religion tout à fait incompatible avec la foi catholique. Et s'il fallait définir Bergoglio, il faudrait dire que c'est quelqu'un qui veut en quelque sorte essayer de baptiser d'une certaine façon la religion officielle laïque. Je pense qu'il y a le laïc dont j'ai le plus peur, c'est Bergoglio, parce qu'il est imprégné de ce laïcisme. Alors que Macron soit un laïc, je comprends un peu. Bon, on peut pas demander à Macron d'être escompté toutes les 5 minutes, puisqu'il la foi catholique, il s'en fout. Tandis que quand on voit un Bergoglio qui nous parle des droits de l'homme à longueur de journée, parce que tout ce dont il nous parle à longueur de journée, c'est des droits de l'homme, c'est tout ce dont il parle, il ne parle plus du tout des droits de Dieu, mais c'est une catastrophe pour quelqu'un qui se prétend pape. Alors que le pape, c'est quoi ? Le pape, c'est quelqu'un qui a pour charge de garder le dépôt de la foi. Garder le dépôt de la foi, ça veut dire quoi ? C'est quoi le dépôt de la foi ? C'est nous rappeler que Dieu est Dieu, et Dieu est créateur, et donc il a des droits sur nous. Alors, C'est la définition de l'article 1 de la question 82. Donc, la dévotion n'est autre que la volonté de se livrer promptement au culte de Dieu. Donc, c'est un acte spécial de la volonté. On appelle dévot les hommes qui se dévouent à Dieu pour lui être entièrement soumis. Donc, il ne faut pas croire que la dévotion n'est réservée qu'aux moines. La dévotion, c'est-à-dire l'acte par lequel je reconnais que je dois être soumis à Dieu puisque je lui dois tout, cet acte de dévotion est nécessaire pour tous les catholiques. Donc, on va voir tout ça. Donc, ensuite, on verra les différents détails. Donc, la dévotion est-elle un acte de religion ? Article 2, la question 82. Article 3, la méditation est-elle cause de la dévotion ? Article 4, la joie est-elle un effet de la dévotion ? Et ensuite, saint Thomas va rentrer après dans les détails, les questions 83 sur la prière. Donc, on va terminer là. Parce que pour commencer tout de suite l'article 4, la question 82 nous entraînerait beaucoup trop loin. On va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Nos saints anges gardiens, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.